Canal Sud 92.2, bonjour tout le monde. Je vais encore vous parler d'enseignement. Les ministres de l'Éducation nationale se succèdent à la vitesse grand V. Et c'est un très mauvais signe. Alors je vais vous lire aujourd'hui des extraits d'un bouquin qui a fait un certain bruit parmi les collègues il y a déjà une cinquantaine d'années. L'auteur Claude Duneton fait un portrait de l'appareil éducatif français, sans complaisance, mais avec beaucoup d'humour. Le problème, c'est que depuis la parution de ce livre en 1976, ça ne s'est pas arrangé. Il y a une petite accalmie avec Lionel Jospin. Mais vous savez bien le tour que nous a joué Lionel Jospin. On en pleure encore. On va écouter les sonnettes d'alarme de Claude Duneton et on va mesurer le mauvais chemin parcouru. Et puis, j'ajouterai mon petit grain de sel chaque fois que il me semblera indispensable d'actualiser ce constat. Voilà ce que dit Claude Duneton. Elle était sûrement intelligente, Maude, mais je ne pouvais pas tout lui expliquer. Ça aurait été de la politique, et il paraît que c'est pas bien la politique à l'école. C'est défendu. Je ne pouvais pas leur expliquer qu'ils étaient nés dans une chausse-trappe, elle et ses copains, du mauvais côté du tableau. Que l'école n'avait pas du tout été conçue pour eux, et que j'en avais assez, moi, au-delà du supportable, de faire le guignol pour rien. Au départ, l'école était destinée à transmettre des valeurs bien établies, dans un monde solide et carré. Seuls les enfants des classes aisées faisaient des études prolongées. On leur inculquait la belle langue, les connaissances sûres, la morale de leur milieu. On leur disait que les Anglais portaient des chapeaux melons, qu'ils travaillaient à la City, tous dans des banques, qu'ils prenaient le tea à 5 heures, et que généralement parlant, ils n'étaient pas très folichons. Et c'était vrai. Car ces Anglais qu'on leur décrivait ainsi étaient leurs frères, naturellement, leurs homologues de classe, les seuls dignes d'intérêt, l'establishment. Brusquement, on a ouvert les portes du secondaire à la masse. On y a fourré le peuple, en tas, et on n'a pas songé à rectifier le tir. On n'a rajusté ni la machine, ni les programmes. On n'a pas donné aux enseignants l'occasion de réviser leurs idées sur la profession, sur le sens de l'instruction ou de la culture. Des petites boutiques, on a fait des grandes surfaces, mais c'est toujours les mêmes produits que l'on vend. Une enseignante d'un certain âge, bombardée du lycée où elle avait fait le gros de sa carrière, piaillait au conseil de classe du CES. « Mais qu'est-ce que ces élèves font chez nous? Je vous le demande. Ils n'ont pas leur place ici. Voyons. » On était gênés. Il a fallu lui expliquer que l'école était devenue obligatoire jusqu'à 16 ans. Elle l'avait entendu dire, mais elle n'avait pas fait le rapprochement. Tirer les conclusions pratiques nécessaires, qu'ils étaient là parce qu'ils ne pouvaient pas être ailleurs et qu'elle ne pouvait plus les renvoyer comme au beau temps de sa jeunesse pour garder les oies. Ça lui faisait un choc à la dame. Elle avait cru à une erreur. Il n'était plus du tout adapté à son cher vieil enseignement des familles, les nouveaux mouflets populaires. Elle n'en digérait plus quasiment. Toutes ces valeurs bien établies, toutes ces belles phrases qui ne passaient plus. Les tortillages sucrés de la sensibilité délicieuse qu'on lui avait apprise, qui était pourtant au programme, c'est vrai. « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ces voyous ?» Elle nous demandait. On n'en savait rien. Un grand de quatrième l'avait traité de Totoche. Ben « Moi, ça me plaît bien si on m'appelle Totoche. On m'avait donné des surnoms et moi j'aimais bien. » Et c'est pas méchant, Totoche. Un effronté, disait-elle. Elle allait de surprise en surprise. Elle vomissait la race humaine, la collègue, des jours heureux, où seule s'asseyait devant elle des fils à papa bien polis. Je me marrais. J'aurais voulu la voir, chez mes transitions. Qu'elle soit étonnée une bonne fois pour toutes. N'empêche que c'est vrai, personne ne nous a avertis. Naguère, les gens allaient à l'école pour changer de conditions sociales, échapper à un travail manuel ou devenir des petits bourgeois. Aujourd'hui, on fait des études pour aller à l'usine. Oui, sauf que maintenant, des usines, il n'y en a plus. Ou quasiment. C'est un changement fondamental. L'école n'en a pas fondamentalement tenu compte. Elle s'est agrandie, enflée, pour recevoir tout le monde. Mais ses structures ont à peine bougé. L'installation de la société industrielle au cours des 20 dernières années a donné à l'école une importance qu'elle n'avait pas autrefois. Avant, celui qui avait son certificat d'études et celui qui ne l'avait pas faisait peu ou prou le même travail, menait rigoureusement la même vie. De nos jours, c'est de la réussite scolaire que dépendent le métier, le mode de vie d'un individu. Oui, ben là, Claude Duneton, je suis désolée, mais c'est là que c'est vraiment, vraiment devenu pire, au XXIe siècle. Cela change tout. En quelques années, l'école a pris une responsabilité immense qu'elle n'avait pas. Elle peut moins que jamais se targuer d'être apolitique avec un rôle pareil. Et nous non plus, les enseignants. On ne peut pas se dire apolitique quand on accepte pour fonction de trier les torchons et les serviettes, les ouvriers et les patrons. On ne nous a pas avertis. Mais le métier a carrément changé de fonction en une quinzaine d'années. On nous a conservés dans des cadres, des classes, des murs, pendant que tout changeait autour de nous. La société, la vie, les valeurs, les gosses et nous-mêmes. Nous continuons à exercer dans des règles et des structures conçues, fort bien, je le répète, pour le métier d'autrefois. Et ça coince évidemment. Pour les enfants et pour nous. Certes, on essaie de se raccrocher, de s'inventer des systèmes. On change l'agencement des tables en classe. On met le bureau derrière, au fond, sur le côté. On fait neuf sur les murs avec des gravures, des posters. On plonge dans des combines de plus en plus compliquées que nous appelons pédagogie. Pour faire savant, et pour nous rassurer, nous donner du mordant. On en crève, et le bel échafaudage continue de dégringoler, quand même, d'année en année. Les enfants deviennent de plus en plus rétifs, turbulents, inattentifs, ignares, selon nos canons de beauté, donc perméables à la sélection sociale. Et nous, de plus en plus dégoûtés. Non, pas dégoûtés. Si on est dégoûté, il faut vraiment faire autre chose. C'est ce qu'il va conseiller dans quelques pages. Maud avait un joli sourire, rudement fin. De tête, elle ressemblait à Stephen, un Anglais là-bas, dans les Midlands, qui ricanait doucement à la Grammar School. Il avait la même démarche qu'elle, le même air, d'aller quelque part sans qu'on l'arrête. Le même regard en biais quand il observait le monde, et le sourire, soudain, mi-hésitant, mi-complice. L'insolence tranquille, tempérée de gentillesse. Les mêmes silences. Il n'y était pas allé par quatre chemins à notre première rencontre. C'était au bas du grand escalier néo-gothique qui menait aux classes. « You're a teacher, eh? You know what they say. Those who can do, do. The others teach. » Ceux qui sont capables de faire quelque chose le font. Les autres enseignent. C'est une phrase de Bernard Shaw, il paraît. Elle m'a souvent trotté dans la tête depuis. Stephen aimait la peinture, lui. On est devenus copains. Il construisait des formes avec ses mains, des couleurs, la seule chose qui l'intéressait. Il est devenu peintre depuis. Il fait des expos partout, en Europe. Il promène son sourire et son entêtement. Je crois que c'est à cause de Stephen que je lui laissais la paix à Maud. Elle en était un peu surprise. « Pourquoi vous m'engueulez pas, madame ?» Elle m'a demandé un soir, brosse à la main, près du tableau, sourire en biais, pour tempérer l'audace. « Pourquoi tu veux que je t'engueule ?»« J'apprends pas mes leçons ?»« Rien ?»« C'est toi que ça regarde, non ?» Elle était pas sûre. Elle se méfiait. Elle avait trop l'habitude des gesticulations, des injures braillardes. Ma mansuétude l'inquiétait. « Vous me trouvez trop bête ?»« Pas du tout. Si tu ne veux pas apprendre l'anglais, tu dois avoir tes raisons. »« Mais ça sert à rien, madame. » Elle s'indignait. « Faites pas semblant de pas comprendre. On n'en fera plus l'année prochaine, de toute façon. » « Tu vois bien que tu as tes raisons. » Elle a effacé le tableau en silence. Le lendemain, elle savait la leçon par cœur, les quelques phrases. Elle avait dû y passer des heures. C'est pas facile quand on n'a pas l'habitude. Elle a tenu à réciter l'œil goguenard. Que je ne risque pas de confondre, qu'elle était cancresse par choix. Ça n'était pas certes très exact, tout à fait faux même dans un sens, mais elle avait son point d'honneur, que si elle voulait, elle pourrait. Les autres en étaient chavirés. Qu'est-ce qui lui prend ? Eh, Maud, madame, elle va être malade ! Elle a répliqué sèchement. Vos gueules ! Elle tenait à sa démonstration. Ça a duré 2-3 jours, obstinément, une semaine. Et puis elle a repris ses airs maussades, ses silences et ses petits dessins. Longue attente. Moi aussi j'attendais. La fin de l'heure, la cloche. J'attendais les vacances, les week-ends, les jours fériés, tout ce qui pouvait me sortir de là, 5 minutes ou 48 heures. Ou 2 mois. Je me prenais à souhaiter des épidémies de rougeole, n'importe quoi, la mort du président, les jours de grève, les soutiens aux mineurs, aux plombiers, aux cheminots, pour respirer, reprendre mon souffle, oublier. Et je suis passée par là, et je souhaitais qu'il arrive quelque chose pour que on s'arrête. C'était le rythme que je trouvais insupportable. Et ce proviseur, qui savait que j'aimais ce boulot et qui savait que je ne dirais pas non, et qui me collait des heures supplémentaires et des gamins en plus, sans arrêt. Et j'ai souhaité qu'il arrive quelque chose. Le jour où je l'ai souhaité le plus franchement, c'était le 20 septembre 2001. Et le lendemain, comme vous savez, à Toulouse, il s'est passé quelque chose. Mais le lundi suivant, on était tous dans la cour du collège. Et on a été répartis dans plusieurs établissements où nous avons été plus ou moins bien reçus. J'attendais la retraite, en somme, la fin de l'immense corvée. Moi, ce n'était pas une corvée, c'est parce que on nous mettait dans des conditions où le travail devenait impossible. Mais ce n'était pas une corvée. Avoir des enfants devant soi qui viennent vous demander de les aider, en fait, de les aider à mûrir, à comprendre, pas seulement les matières d'examen, mais un petit peu tout, c'est une preuve de confiance, c'est un privilège extraordinaire, mais très très lourd. Voilà, pour enseigner, il faut avoir la foi. C'est un vocable qui peut paraître surprenant chez des laïcs patentés, mais c'est le terme exact, celui que l'on emploie abondamment dans la profession. Il faut croire à ce qu'on enseigne, croire à l'avenir, à la culture, au progrès, à la justice. Il n'y a d'enseignants véritables que les missionnaires. C'est ce qu'étaient les bons maîtres, nos prédécesseurs. Ils avaient des croyances solides en l'homme, en leur mission. Ils nageaient dans les certitudes, les participes passés qui s'accordent comme il faut et pas autrement. Ils avaient la foi, avec généralement en face une contre-foi, en soutane, pour attiser leur passion. Ça soutient le moral, une forte haine. Ça occupe une vie. Ils se la coulaient douce aussi, comparativement. Ils dévidaient du haut de leur chair, sans méthode et sans falbala, un savoir que personne ne contestait. Ils dictaient leurs cours avec sérénité, selon le principe des vases communicants. Peu importait qu'ils aient en face d'eux 20, 30 ou 50 élèves, ils auraient pu en avoir 200, en forçant un tout petit peu la voix. L'important, en matière de pédagogie, c'était le silence, la discipline, jusqu'au dernier rang. Ils appelaient les gosses « Monsieur, mademoiselle, monsieur un tel, veuillez nous lire le texte, je vous prie. » Le jeune homme s'exécutait, bien ou mal, sous l'approbation distante ou le blâme du magistère. Il récitait devant le tableau. Il ne posait aucune question. En anglais, il n'y a pas encore si longtemps, c'était le « lisez, traduisez ».« This is the classroom ». Personne n'était épuisé, ni l'élève, ni le maître. Bien sûr, on faisait de la sorte 7 ans d'anglais sans en parler un traître mot. Mais quelle importance ? Pourquoi aurait-on su parler ? Avec qui ? Il n'y avait aucune raison de s'exprimer en anglais, il y a seulement 20 ans. On ne voyageait pas. Les cinémas ne fonctionnaient pas avec des sous-titres. Il n'y avait pas de pop musique. Un garçon aurait-il parlé couramment anglais en sortant du bac qu'il aurait tout oublié quelques années plus tard, de toute façon. Ça s'oublie, une langue étrangère. Il faut la pratiquer régulièrement. Même une langue maternelle se rouille, le cas échéant. Il aurait été absurde d'apprendre à parler en classe. L'intérêt était ailleurs, dans la gymnastique intellectuelle que suppose toute traduction, et en définitive, dans l'approfondissement de sa propre langue. Absolument. Maintenant, nous sommes une succursale de Wall Street. Nous baignons dans l'anglo-saxon. On nous vend déjà des produits avec des notices exclusivement en anglais, alors que c'était légalement interdit dans les années 80. Tous les machins électriques portent les indications « on, off » au lieu de « marche, arrêt ». Naturellement, il faut apprendre la langue, et très bien, Il n'est plus question de faire des études scientifiques sans la connaître, ni même de se lancer dans l'épicerie en gros. Par conséquent, les professeurs ont dû changer. Parler comme des disques. Nous avons acquis une fonction précise, sur laquelle veille la CIA, celle des démarcheurs pré-publicitaires. Nous préparons le terrain. Seulement, le hic, c'est que nous avons toujours, pour accomplir cette tâche nouvelle, sanctionnée par des examens oraux, les mêmes structures de base. 4 murs, un blackboard, 2 lacrets, un bouquin, 2 bras, 2 jambes et 35 élèves en face. Au nouveau prof de se débrouiller, de mouiller sa chemise dans un corps à corps pathétique avec sa classe. Le vent de la panique en poupe. Pas étonnant qu'il s'enrhume, qu'il s'absente. De missionnaire, le prof est devenu combattant. Vous êtes toujours sur Canal Sud, je vous ai pas découragé. Alors c'est contre-histoire et on continue. Tous les spécialistes savent qu'il faudrait d'autres conditions. 8 élèves à la fois. Oui, 8 élèves à la fois pour les cours de langue, ça c'est certain. Bon, moi j'en avais 15 en fin de carrière parce que j'étais une vieille qui était censée avoir une expérience pratique et à qui on pouvait refiler les cas et les classes les plus difficiles. Eh bien, c'était pas difficile du tout. Je vous ai déjà raconté ça. 8 élèves à la fois, à petite séance quotidienne de 20 minutes. C'est ça, la clé de l'enseignement des langues. Un tas de matériel, toute chose, qui suppose une réorganisation totale des cadres dans lesquels on se débat. On apprend aujourd'hui une langue en 6 mois, si on veut bien, si on en a besoin. Il est grotesque d'occuper des années durant, à coups d'heures trépidantes, l'attention de la jeunesse. Tout ça pour faire semblant. Car en définitive, ceux qui apprennent réellement l'anglais, ils sont de plus en plus nombreux, sont ceux dont les parents peuvent se permettre de les envoyer en vacances en Angleterre ou aux États-Unis. Vous parlez d'une égalité des chances. La société a prodigieusement changé en quelques décennies. Chacun le sait, le répète. Presque tous les comportements se sont modifiés, affectifs, intellectuels, sexuels, alimentaires. Et nous essayons d'enseigner à la manière du XIXe siècle. On demande aux gosses, alors qu'ils sont, eux, les plus touchés par ces transformations, on leur demande de réagir comme leurs grands-parents, qui vivaient dans un silence millénaire. Certains jours, l'attention des enfants est totalement dispersée. Il faut répéter 3 fois la même chose à une petite classe pour être entendu. C'est un des aspects épuisants qui mettent la plupart des profs en fureur. Ce qui me frappe le plus, personnellement, c'est que les gosses parlent tout seuls, entre eux, sans se cacher. Ça, sans agressivité aucune, même s'ils s'intéressent à ce que vous dites pendant le même temps. Ils trouvent naturel de bavarder, ouvertement, sous votre nez, en toute amitié. Après bien des récriminations, je me suis aperçue qu'ils sont sincères. Ils ne comprennent pas que leur bavardage puisse déranger. C'est que leurs habitudes ont changé. Ils transportent en classe la manière dont ils regardent la télé. Sauf que, maintenant, les ados regardent de moins en moins la télé. Ils ont tous leur smart, c'est leur moyen de transmission personnelle. C'est beaucoup plus intéressant. Attention, il ne s'agit pas d'accuser une fois encore la télévision, mais d'observer un comportement pratiquement irréversible et le décalage qui en résulte avec nos façons de procéder. Nous avons à présent des générations pour lesquelles le discours plus ou moins continu est apparu pour la première fois de leur vie au petit écran, même sous la forme de nounours. Autrement dit, ils confondent quelquefois la voix du prof avec celle du type qui cause dans la boîte. La notion d'insolence qui nous conduisait à nous cacher pour transmettre une impression aux voisins bouche couverte par la main. Cette notion leur est complètement étrangère. Cela d'autant qu'ils ont acquis l'étrange faculté, que nous n'avions pas, de suivre une émission et de faire autre chose en même temps. Dessiner, lire un bouquin. Et bien sûr, ils arrivent à faire leurs devoirs devant le poste. Avoir constamment du bruit autour de soi est en effet un phénomène récent. Musique de fond, transistor, jukebox, télé, voiture, marteau-piqueur. Nous avons nous-mêmes, adultes, oublié le silence. Comment veut-on que les enfants qui ne l'ont jamais connu puissent se comporter sur un modèle de monde silencieux? Dans le monde rural ou para-rural des cités de naguère, les manifestations sonores, par beau temps, étaient exclusivement produites par l'homme ou l'animal, toujours en direct, et dans les limites de décibels fort raisonnables, qui culminaient probablement dans le hennissement d'un cheval ou le carillon des cloches. Je n'ai pas l'intention de me lamenter sur les conditions de vie passées. Elles avaient leur rudesse. L'homme, ou du moins l'homme au travail, était un fameux bestiau. Moi, je préfère l'eau courante à tous les puits et toutes les riantes fontaines avec un seau au bout du bras, lourd à vous déboîter l'épaule. Il ne s'agit pas de brosser des tableaux idylliques là où il n'y avait que des corvées et crève-corps, mais de constater une évidence. Le comportement sensoriel de l'individu s'est modifié avec l'environnement. Mettons qu'il y a 30 ans, avant les tracteurs, un paysan soit en train de sarcler des betteraves dans un champ au bord de la route. Un voyageur passe à pied. Le paysan le voit venir de loin. Plus exactement, il l'entend d'abord, à cause du claquement des sabots ou des gros souliers, voire du choc intermittent du bâton de marche. Ce bruit a déjà une signification importante. Quelqu'un va passer sur la route. L'échange sera plus ou moins long, plus ou moins riche, mais il constituera un petit événement dans la matinée de travail. L'événement dépend du personnage en marche, et le paysan, tout en continuant à manier la trane, va essayer de deviner qui vient. Première constatation, il s'aperçoit qu'il ne connaît pas le pas de cet homme. On reconnaît ses voisins à distance. Question de rythme, d'attaque du sol, de chaussures. Machinalement, le paysan procède par élimination. C'est pas Louis, c'est pas Germain non plus. À cause de la haie, il doit attendre que la silhouette ait dépassé le tournant. Sans cesser ses gestes de sarclage, il suppute les chances que ce soit une connaissance plus lointaine, un habitant d'un village voisin. Un observateur extérieur ne soupçonnerait même pas l'activité fébrile qui a lieu sous le chapeau du cultivateur. Pourtant, son attention est extrême. L'homme a lentement passé le virage. Il se rapproche à présent, à découvert. Surprise, la silhouette est totalement inconnue. À partir de là, un suspense s'installe. D'où peut venir cet individu et où peut-il aller? Les suppositions se pressent. Bref, lorsque le personnage est à 20 mètres, il est déjà jaugé, pesé, à sa mise, à sa démarche, laquelle donne une indication importante sur son caractère, son humeur. Toutes les hypothèses ont déjà été faites sur son compte. On est en plein événement, mais rien ne transparaît. Le paysan continue sa besogne. Il ne serait pas poli de lever le nez trop tôt. Le passant, de son côté, est conscient de la curiosité qu'il provoque. C'est à lui de parler le premier. Il parle. Il lance un bonjour à 10 mètres. Le paysan se relève alors, allant quelquefois jusqu'à feindre courtoisement la surprise. Et un autre acte se joue. Dès les premiers mots, la voix de l'étranger va être extrêmement précieuse. Non, pas ce qu'il dit. Il émettra quelques remarques sur la qualité des betteraves, sur le temps. Il lui sera répondu par d'autres banalités. Mais pendant ces échanges anodins, le paysan recueille ses informations et les analyse. L'intonation, la prononciation vont fournir des clés décisives sur l'origine probable de l'homme. La conversation éclaircira la suite au cours d'une petite halte riche en échanges de nouvelles. Le manche de l'outil calé contre une fesse pour soulager un instant les reins. Il est évident que dans un tel mode de vie, la relation aux autres, la relation à la parole de l'autre, est extrêmement différente de celle qui résulte du côtoiement journalier de dizaines, de centaines de personnes dans une relation professionnelle actuelle, voire de milliers d'êtres anonymes dans la foule des métros et des autobus. Parler ou ne pas parler à quelqu'un avait un sens fort. Seuls les gens brouillés ne se parlaient pas. D'autre part, la faculté d'attention dans une civilisation rurale est telle que la mémoire prend parfois des proportions étonnantes. Un paysan remarque tout. Il y a quelques années, au cours d'un voyage en voiture de Brive à Bordeaux, mon cousin avait retenu tous les détails de la route. Il s'étonnait de mon insouciance. « Tu sais bien, il y avait une petite grange à droite. Mais si, avant Libourne, après un virage. » Il se rappelait les champs de luzerne, les maïs, les vignes, les maisons, les carrefours, sur 200 kilomètres. L'école a été inventée autrefois en fonction de telle mentalité. Des structures ont été mises en place, fondées sur la mémoire, à l'usage d'enfants élevés dans ce genre de cadre. Des enfants qui remarquaient tout. Elles n'ont pas bougé. Classe, tableau noir, un bonhomme qui parle. Les enfants, si, forcément. Il y a loin des silences agrestes, des allées tranquilles des petites villes d'antan, à la foule quotidienne, aux affiches, aux néons, à la musique pop. Du reste, on ne pouvait pas vivre en ville avec l'attention de jadis. Imaginez quelqu'un marchant dans une rue sur la disponibilité sensorielle d'un homme des bois ou des landes. Un marteau-piqueur éclate soudain à 2 mètres de lui. Il tomberait raide d'un arrêt du cœur, le pauvre nonchalant. Il est devenu nécessaire d'avoir des protections, de ne plus voir, de ne plus entendre profondément. D'ailleurs, si l'on vient de la campagne, une seule journée en ville vous épuise. On reçoit de plein fouet les mille et une petites agressions citadines. Il faut rapidement mettre un voile, tirer une sorte de rideau intérieur. Les enfants actuels sont donc adaptés à une civilisation différente. Leur attention aux gens et aux choses s'en trouve profondément modifiée. Il est normal qu'ils s'agitent dans un contexte scolaire qui n'a pas été fait pour eux. Ils sont incapables de tenir l'heure de cours, cette monstruosité. Et le prof de renchérir, de vouloir quand même, d'exiger à tout prix, de capter par tous les moyens une attention fuyante. Impossible. Il fait tout seul les frais du changement. Il n'y a pas lieu de pleurer sur ces transformations. On ne va pas rendre aux gosses leur placidité. Au contraire, il devient urgent de compter avec elles et d'adapter le milieu scolaire à ces modifications qui ne sont pas toutes négatives. Loin de là. Je pense pour ma part que les enfants ont l'esprit beaucoup plus vif aujourd'hui qu'autrefois. Oh combien ! Cela grâce à l'audiovisuel précisément. Ils sont soumis, dès leur plus jeune âge, à une gymnastique intellectuelle beaucoup plus intense. Ils sont habitués à traiter une masse d'informations qui les oblige à des enchaînements de la pensée que nous n'avions pas. Voilà pourquoi les gens de mon âge ont tant de retard sur les adolescents. Eh oui, un adolescent, il sait beaucoup plus de choses à 16 ans, 17 ans, que ma vieillerie. Je prendrai l'exemple du cinéma. Les vieux films étaient construits selon une grammaire précise, des règles qui suivaient au début celles du roman classique dans le développement linéaire d'une action. Si l'on voyait un personnage pousser une porte pour entrer dans une pièce, il fallait le voir au plan suivant repousser la porte derrière lui pour comprendre qu'il était entré dans la pièce. Cela afin de ne pas dérouter le spectateur. De la même façon, si l'on prenait un personnage assis à un bureau, en train de compulser des papiers, on ne pouvait pas le montrer sans transition, marchant dans la rue à la séquence d'après. Les gens n'auraient pas compris. Ils auraient cru qu'ils se trouvaient dans deux endroits différents à la fois. L'ellipse les aurait choqués, tout au moins les aurait distraits, pendant quelques secondes de l'action et du propos. Pour être clair, il était nécessaire de voir le bonhomme se lever du bureau, prendre son pardessus, son chapeau et se diriger vers la porte. La grammaire exigeait même qu'il sorte du champ de la caméra. Ce n'est qu'alors que l'on pouvait le reprendre dans la rue. Chacun sait que le cinéma actuel est loin de s'embarrasser de pareils détours. On peut fort bien sauter du personnage assis devant ses paperasses au même bonhomme à poil sur une plage. Les gens comprennent qu'il est ailleurs, en vacances, que le temps a passé. La juxtaposition des séquences aura même probablement une signification sentie par tout le monde. La mentalité des spectateurs a donc progressivement évolué. Les enfants, en particulier, sont accoutumés à des tournures elliptiques qui constituent une forme de pensée, un degré d'abstraction qu'ils reportent sur une foule d'autres éléments sans que nous en ayons clairement conscience. Les tout-petits reçoivent le monde en images. Leur perception de la réalité s'en trouve déjà profondément modifiée. Vous êtes toujours là ? Eh bien, c'est toujours contre histoire. Et on continue sur le métier que j'aime tant. Il s'est donc créé, à l'insu de tout le monde, un décalage certain entre la pensée des jeunes et celle de leurs instructeurs, sans parler de leur sensibilité, elle aussi différente. On ne voit pas toujours où on en est. Certains profs expliquent longuement des choses évidentes pour leurs élèves navrés et laissent de côté des notions qui leur paraissent claires alors qu'elles sont devenues obscures. Ça ressemble un peu à ce que j'ai entendu dire des difficultés rencontrées par des enseignants européens dans certains pays de cultures différentes, en Asie ou en Afrique. On ne s'entend plus, ils ne comprennent rien, ils sont complètement bouchés. Peut-être, mais c'est parfois que la longueur d'onde est carrément changée entre l'interlocuteur et l'interlocuté. Le phénomène est particulièrement sensible dans le domaine de l'humour. C'est fragile, l'humour. C'est tout en connivence. Ça se fane d'une génération à l'autre. Surtout depuis quelque temps. Je défie un prof qui n'a jamais lu Pilote ou mis le nez dans une bande dessinée, ni un dessin animé depuis 10 ans, d'être en accord quelconque avec sa classe. Combien d'enseignants s'arrachent quotidiennement les cheveux après avoir passé des heures à choisir dans leur dossier un texte qu'ils croyaient drôle, dont ils espéraient merveille, une historiette joliment tournée qui les amuse, eux, à n'en plus finir. Ils sont accueillis par un mur d'ennui. Rien ne les amuse, rien ne les intéresse, j'ai jamais vu ça. Vitupère le malheureux, la malheureuse. Après un de ces bides à vous faire abandonner la profession de clown. Les recueils sont bourrés de ces classiques de la drôlerie manquée. Le célèbreissime « Trois hommes dans un bateau » de Jérôme Cadjérôme ne fait plus rire personne. Et pourtant, moi, il m'a fait rire aux larmes. J'ai vu personnellement son pouvoir comique s'étioler d'année en année. Il n'y a là de quoi insulter personne, c'est ainsi. Sans doute, nous nous trouvons dans une période transitoire. Ces choses-là se tasseront d'elles-mêmes lorsque l'ensemble de la population aura assimilé les nouveaux modes d'expression et que, pour commencer, tout le personnel enseignant sera né sous le signe des étranges lucarnes. Ce sera alors reparti pour plusieurs siècles. Certains profs commencent déjà à n'avoir plus ce problème de mésentente. Mon copain, Pagliano, représente à cet égard une sorte de prototype. Il n'est pas le seul. Cinéphile éclairé, il a, c'est important, consacré une partie de ses études universitaires au cinéma. Grand connaisseur en bande dessinée, non par conscience professionnelle, mais par goût personnel, il se trouve totalement de plein pied avec ses élèves. À partir de cette connivence, qui a son origine dans une culture commune, il capte la confiance des gosses et se trouve à même de diriger leur intérêt, sans aucun effort d'adaptation particulier, sans jouer aucune comédie, ni à lui-même, ni aux autres. Il n'a pas à se mettre à la portée des enfants. Il y est, naturellement. Ça change considérablement les rapports. En attendant, nous qui avons commencé plus tôt, dans un autre âge, nous serons vieux et usés. Nous représentons la charnière entre un vieux monde et un nouveau. La génération sacrifiée, en somme. Sacrifiée et coupable, nous qui avons le sens de la mission, de la tâche, de la responsabilité face aux parents, aux gosses et à nous-mêmes. On se sent continuellement coupable de ne pas en faire assez. C'est un métier où rien n'est jamais fini, où tu gardes le sentiment que tu pourrais toujours en faire davantage. Tu deviens sensible aux remarques, aux allusions, à tes vacances. Ah, les enseignants, les boucs émissaires, le moindre couillon qui commence à râler devant toi sur les départements que les gosses ne savent pas, te met mal à l'aise. Même si tu n'enseignes pas du tout la géographie, tu prends la chose à ton compte. Tu sens l'autre qui te traite de feignant, l'orthographe et tout. Les parents t'accusent inconsciemment de toute l'évolution de la société, de ce que leurs gosses ne sont plus comme eux au même âge, du fait qu'ils ont perdu eux aussi, bien sûr, le contact avec leur progéniture. Il y a quelque temps, je louais une voiture sans chauffeur pour la journée. Le type derrière son bureau, la cinquantaine, bien mis, cravate, oreilles dégagées à la tondeuse, énergique, carré. Business. Il veut voir mon permis et ma carte d'identité. Professeur ? Vous êtes professeur ! On ne doit pas louer souvent des voitures dans le métier, parce qu'il était content d'en avoir un sous la main, de prof. Je le sentais, il avait le sourire, le tortillement d'aise de celui qui aurait deux mots à dire s'il osait. Qui va oser ? Qui prend son temps ? Je sentais venir la vanne, les grèves, les congés, son garçon justement qui lui donnait du tracas. Et mon fils qui ne sait même pas ses départements, à 14 ans, vous vous rendez compte ? L'autre jour il me demande, qu'est-ce que c'est ? Le Loir-et-Cher ? Ah ben oui, ça, je ne voulais pas le contrarier. Pas m'embarquer dans une discussion idiote, j'étais pressée. Lui, pas tellement. Hein ? Le Loir-et-Cher ? Mais c'est pas tout, attendez. Je lui demande un peu les capitales pour voir. La catastrophe. C'est tout juste s'il a pu me sortir Madrid, Rome et Athènes. L'Australie ? Tenez-vous bien, il me dit Melbourne, et puis Sydney. Je hochais. J'avais un sourire entendu. J'avais vaguement peur qu'il se mette à m'interroger. Le con. Il avait l'air d'un amateur. Son Australie, ça avait l'air d'être une astuce. Et j'étais pas fière. C'est bien simple, je lui demande la capitale des États-Unis. Il me répond New York. Oh! La mine scandalisée. Tout de suite, je me dissociais d'une corporation aussi feignasse qui ne fait plus son boulot. Mais rien à faire. Il tapait du poing sur le bureau. Il m'engueulait. Moi, le représentant de cet enseignement pourri qui n'est même pas à la hauteur des jeux télévisés. Vraiment, je ne sais pas ce qu'ils foutent dans les écoles. Ah, pour les grèves, les vacances. Enfin, je ne veux pas faire de polémique. Il soupirait. Il ne voulait pas trop insister, il venait de se rappeler que j'étais un client, et tout, et tout. Mais tout de même, les principales villes de France, nous on apprenait les préfectures, monsieur, les sous-préfectures. Il faut remarquer que le français est un fanat des capitales. Capitale, racine, cap, chef, la tête, rien de ce qui est chef ne lui est étranger, les chefs-lieux de département. Ah, les chefs-lieux, c'est de là qu'on dirige bien. C'est là que se trouve le préfet, représentant direct du gouvernement, de l'ordre, l'exécutif, grénon d'un chien, qui transmet les ordres de mobilisation générale, qui fait réprimer les séditions, et tout. Rien n'est innocent. Cette façon de faire seriner les préfectures à nos pères, c'était les habituer à l'idée d'autorité gouvernementale, leur forger la discipline dans la moelle des os. Ça a rudement bien marché, faut le reconnaître. Un éminent éditorialiste du journal Le Monde, ricanant l'année dernière sur les efforts des minoritaires pour regagner quelques dignités, ne trouvait pas d'argument plus solide pour se moquer des Occitans que « Où est votre capitale ? Hein ? Vous n'avez même pas de capitale ! » Pour le public, le professeur est d'abord un livre vivant, un puits de connaissances. C'est lui qui en sait le plus, lui qu'on peut consulter, comme à une époque où les livres étaient rares et les lecteurs peu courants. Beaucoup de parents ont gardé l'image du prof tutélaire, du type qui sait tout, un peu sorcier, un peu dangereux sur les bords. Et ils y tiennent. Ils ont besoin de cette image rassurante qui a pris la place de celle du prêtre depuis qu'il n'y a plus vraiment de prêtre. On renvoie l'enfant à l'école pour que les maîtres lui apprennent toutes ces belles choses qu'on nous a apprises à nous. Ainsi, mon fils et moi serons du même bord, en connivence. Le fin du fin, dans certaines familles, c'est d'envoyer l'enfant dans le collège où le père a été éduqué, où il aura vieilli, mais toujours respectable, quelques-uns des mêmes professeurs. Il sera instruit par les dieux l'art eux-mêmes. Manque de bol. Avec notre société bougeotte, nos valeurs à la sauvette, les belles choses de papa n'existent déjà plus. On a passé à autre chose. Un brave père m'adressait un jour des suppliques à la réunion des parents d'élèves, cette cérémonie de concertation où les professeurs, du haut de leur importance, dorent copieusement la pilule aux familles. Il était bouleversé, ce père aimable. Il demandait que je leur apprenne les belles récitations d'autrefois, les beaux poèmes de la langue française, monsieur. Apprenez-leur, je vous en prie. Il suppliait. Il a réellement, quelques secondes, joint les mains. Salut manque au papa. Il n'en a pas pour son argent. Il avait une fille. Il se disait, quand elle sera grande, elle ira au collège. Elle apprendra ces belles choses que j'ai un peu oubliées. Il la voyait partir le matin avec son écharpe au vent et son cartable, ses bonnes joues, et revenir le soir même, pleine de jolies récitations. Il la ferait réciter. Il pense au coin du feu, mais se reprend mentalement. Il regoutterait, au travers de ces jolies choses, son enfance à lui. De voir que les jolies choses n'existent plus, il en a un coup de bourdon. L'école lui est fermée. C'est son enfance qui n'existe plus. On a triché avec lui. La société a triché. Les profs ont triché. Moi, ils lui ont volé son enfance. Ils ont changé les jolies choses. C'est tragique, d'ailleurs, si on y regarde. Il faut dire que les beaux poèmes de la langue française qu'il réclame, ce brave homme ému, c'est des fameuses conneries, le plus souvent. C'est du François Copé, cucu la praline, qu'il entend le bougre. Mais, ah, respect, ce sont les chants de son enfance, et ce sont des maîtres qui les lui ont appris. Une société qui bouge tout le temps est une société sur laquelle on ne peut pas danser. C'est à vous donner le mal de mer, à dégueuler tripes et boyaux par-dessus bastingage. C'est vrai. On nous a déjà fauché le petit Jésus. À présent, voilà François Copé qui se barre. Merde, on nous prend tout. Les cerises n'ont plus le même goût. Et l'autre Einstein, avec sa tête auréolée de frisette, qui est allé baver de la relativité. Que ce qu'on voit, ce n'est pas exactement ce qu'on voit. Qu'on est mortel pour tout de bon sur une foutue planète du désespoir. Voilà ce qu'il ressent, le père, au fond de la classe. La figure toute rouge d'émotion. Il en pleurerait que sa fille n'apprenne plus par cœur les belles litanies rassurantes. Il en pleurerait, comme s'il venait de toucher son cercueil, tout froid. Fossoyeur, hein? À quoi ça sert de faire de la peine à ce monsieur? Pour initier sa fille à quoi, finalement? Pour amuser la gamine? Avec des choses que lui démoliront mes successeurs? Plus tard, par rejeton interposé, en lui faisant beaucoup de peine encore. Ah, laissez-moi partir, me sauver de là. Même dame, il n'y a pas de dame. Je me barre, un point c'est tout, je ne veux plus servir de pantin à la désillusion du pauvre monde. Je mets les voiles pour ailleurs. Ce n'est pas la solution. M'en fous. Tant que les petits enfants morts allaient au ciel quelque part, qu'on leur filait des flûtes et des bouts d'ailes, et qu'ils allaient faire les cons dans les bouquets de roses, au ciel, n'est-ce pas, tout droit, tant qu'ils n'étaient pas que des petits cadavres bleuissants. Oui, dites, tant que tu ne voleras point, et qu'on ne savait pas que ceux qui disaient ça vivaient à la sueur du front des autres, tant que... Oh, ça va, ça va. Un mot encore. Tant qu'on pouvait attacher des casseroles à la queue d'un chien et en rire, on pouvait enseigner quelque chose à quelqu'un. Quand on avait l'autorité de faire n'importe quoi du haut de son statut, sans craindre la contestation. C'était ça, le statut du professeur. Il était incontestable. Et oui, ça a bien changé. Et ce statut, c'était le schéma de l'escroquerie intellectuelle du vieux système d'enseignement. Duneton nous disait il y a quelques pages que pour enseigner, il faut avoir la foi. C'est sûr que sans cette foi, il faut faire autre chose. Enseigner, c'est transmettre. Ce n'est possible que si on croit à ce qu'on transmet. Et c'est bien ça, la foi de l'enseignement. Enseigner le doute est une bien cruelle entreprise. Enseigner le doute. Mais c'est la seule fonction valable de l'enseignement. C'est le seul moyen de découvrir la liberté de penser et d'agir. Enseigner le doute. Apprendre à chercher la vérité, c'est très joli. Mais si on ne la trouve pas, ou alors chacun la sienne, parcimonieusement, c'est moins exaltant. Monter tout un système de recherche en ne sachant pas très bien ce que l'on cherche, et surtout ne jamais tomber sur un morceau de trouvaille pour s'encourager les méninges, c'est vraiment dur. C'est plus ardu que de dresser un cochon à chercher la truffe. Parce que le cochon, d'abord, on lui fait savoir ce qu'il cherche, clairement et sans ambiguïté. On lui fait goûter de la truffe au départ. Ensuite, de temps à autre, on lui en met des petits bouts, cachés, qu'il a la joie de découvrir, en poussant la terre de son groin. Ça lui remet le cœur à l'ouvrage. Tandis que le môme à qui on dit « Cherche, allez, cherche !» sans jamais lui annoncer quoi, peut-être ci, peut-être ça, il en perd l'enthousiasme. Assurément, au début, il y a encore une vingtaine d'années, on avait une certitude vraie. On croyait à la science et à la technique. C'était même rudement chic comme croyance. Ça marchait. On pouvait voir tous les jours les bienfaits. D'une année sur l'autre, les autos devenaient de plus en plus mobiles. Il y avait une stimulation énorme. Et puis à nouveau, on commence à cerner des limites. Elle se désacralise beaucoup, la science, ce jour. La pollution, les cochonneries appliquées, l'atome, sans savoir s'il nous mène à l'extinction de l'espèce ou pas. C'est comme si la truie chercheuse de truffes se mettait à déterrer des truffes en matière plastique, tout à coup. Elle serait déçue, la pauvre garce. Elle finirait par avoir des doutes, elle aussi, sur le bien fondé de sa mission, sur le charme des causes, sur le pouvoir des chênes truffiers, sur tout. Et une truie qui doute, ça n'est plus bon à rien. Quant à en dresser d'autres, assurer la relève en utilisant de fausses truffes aux hydrocarbures, ce serait la crise de l'enseignement chez les truies, je pense. Tout comme le nôtre qui débouche hardiment sur une civilisation de farces et attrapes. Voilà, je dois vous dire que ça me refroidit. Je suis comme une truie qui doute. Merci de votre patience. À la semaine prochaine.